grandit, écrase tout autour d'elle. Interdit, le moustachu s'est levé lui aussi. Son œil va du doigt à la bonne, de la bonne à l'épouse, de l'épouse au cadavre. Pris dans une réflexion intense, il s'efforce d'analyser tous les éléments qu'on présente pour en tirer la bonne conclusion. En silence, le doigt toujours tendu, la patronne attend. Le policier soupire et se décide à lui obéir. Cette solution lui semble aussi la plus évidente. Et après tout, même la bonne ne proteste pas. Il sort de sa poche une paire de menottes métalliques et fait signe à son assistant, un garçon terne au regard ensommeillé qu'on a dû tirer du lit. Il lui désigne la domestique. Alexandrine observe sans douceur la jeune femme se laisser entraver sans la moindre résistance. La tête basse, elle quitte la maison des Daniels entre les deux agents, sans une plainte, sans une protestation. Vêtue de sa seule chemise de nuit et de son tablier, elle sort les pieds nus et les cheveux défaits. Quelques voisins curieux, alertés par l'arrivée nocturne d'un véhicule de police dans cette rue calme, la regardent passer en murmurant, l'air consterné. Quand la porte se referme derrière eux, Alexandrine baisse enfin la main et se laisse aller à pleurer. Elle se demande si elle a bien fait. Tout est allé si vite. Monsieur et madame inconscients par terre. La police arrivait rapidement, presque aussitôt après qu'elle a appelé. Le policier, elle l'a reconnu en ouvrant la porte. C'était lui pour Mariette, la même moustache, le même carnet où noter avec le même crayon, les indices, les témoignages, les preuves. Lui ne l'a pas reconnu. Une bonne, c'est une bonne, partout les mêmes. Elle s'est dit, peut-être que ce policier ne vient dans les maisons que lorsqu'il y a des morts. Peut-être que c'est toujours lui qu'on envoie pour constater les décès, pour élucider ce genre d'affaires. Tantôt une boniche, tantôt un maître. Elle a bien cru que cette fois il y aurait deux maîtres fichus, mais non. Madame a repris vie. Sur le coup, elle s'est dit, tant mieux si madame s'en tire. Elle aimait bien madame avant. C'est en pensant à elle qu'elle avait voulu aider monsieur, qu'elle avait refusé de l'aider à mourir. Enfin, c'est ce qu'elle s'était raconté. Elle pensait que ça suffirait à masquer la vérité, que ça passerait. Mais madame a bien compris. Elle a su que c'était faux, elle a saisi tout de suite pourquoi elle avait agi comme ça avec monsieur. Elle l'a senti tout de suite, son énorme culpabilité, celle qui la faisait trembler à l'intérieur, celle qui l'avait poussée à épargner monsieur pour se racheter, elle. La petite bonne est bien responsable. Elle se sent fautive. Elle s'est servie de monsieur pour alléger sa charge, pour se convaincre qu'elle était du côté de la vie, du côté de l'espoir, pour ne pas basculer avec monsieur dans le grand trou noir. Ce trou qu'ils observaient de loin tous les deux, avec la même envie. Elle s'est sauvée en sauvant monsieur. Elle pensait vraiment que cela marcherait. Elle était si contente. Elle aussi faisait des plans sur l'avenir. Elle avait des projets. Maintenant, tout a échoué. Monsieur est mort quand même. Elle n'a pas réussi à empêcher ça, ni à alléger le poids de sa culpabilité à elle, intacte sous son tablier, au creux de son ventre, au fond de son cœur. Elle est assise à l'arrière dans la voiture de police. Le policier moustachu se retourne de temps en temps. Il la regarde. Elle le voit faire. Il se demande sans doute pourquoi une bonne comme elle, comment une boniche comme elle s'est mise dans un tel pétrin. Elle l'ignore. C'est aller trop vite. Elle a encore oscillé, elle a penché du mauvais côté. Elle ne veut plus y penser. Elle ferme les yeux. Elle voudrait entendre dans sa tête les voix du requiem. Elle chante pour les morts, elle chante pour les vivants. Chanteront-elles encore pour elle ? Bouche close, elle fredonne assez haut pour